L'Université de Lille présente depuis le 2 février et jusqu'au 12 mai 2023 à l'espace culture sur le campus de la Cité scientifique de Lille une exposition originale réalisée notamment à partir de son fonds patrimonial, les plaques précieuses d'Auguste Ponceau, la photographie interférentielle Lippmann Plates. Nous y retrouvons Sophie Brown, chargée du patrimoine de l'université, et Bernard Dupont, président de la Société photographique des universités de Lille, fin connaisseur et passionné de la photographie et de son histoire. Donc aujourd'hui, nous sommes à l'espace culture de l'Université de Lille, à la Cité scientifique de Villeneuve-d'Ascq. Bernard Dupont.
C'est une équipe qui a travaillé sur ce projet. Une belle équipe, une grande équipe, Sophie Brown, Daniel Henquin, un physicien, et Christophe Chailloux, qui a été nommé chargé de mission sur cette affaire ici, et avec qui on a travaillé la main dans la main, avec tous les six spécialistes qu'on a pu trouver, physiciens, chimistes, informaticiens et d'autres, sur ce projet qui lie science et art.
Alors, donc, pour en revenir au contenu de l'exposition, Sophie Brown, on est dans une exposition spécifique sur la photographie et la technologie.
Alors, c'est une exposition sur la photographie interférentielle, donc un procédé qui n'est presque plus utilisé aujourd'hui, à part par quelques artistes. Et donc l'exposition part du fond de l'université. Nous avons 15 photographies interférentielles. Donc c'est un procédé de photocouleur, mais au point une époque où la photocouleur dans le monde commun n'existait pas. Donc des chercheurs se sont attelés à développer donc différents procédés, dont celui-ci. Et là, c'est Gabriel Lippmann, qui obtiendra d'ailleurs le prix Nobel de physique en 1908 pour cette invention, qui est à l'origine de ce procédé. Par contre, notre fond, lui, a été créé par un de ses disciples, Auguste Ponceau, et c'est pour ça qu'on a appelé les plaques précieuses d'Auguste Ponceau l'exposition, puisque c'est précieux dans le sens où dans le monde aujourd'hui, ce type de photographie est très peu référencé. Je crois que les spécialistes aujourd'hui disent qu'ils sont identifiés autour de 500 photographies de ce type dans les collections. Donc c'est à chaque fois des photos uniques d'un procédé qui n'est pas donc celui encore utilisé aujourd'hui.
Donc Bernard Dupont, spécialiste quand même en photographie, même de l'histoire de la photographie, à l'époque, on peut peut-être situer l'année, hein, il y avait plusieurs courants, plusieurs voies, même technologiquement, il y avait plusieurs possibilités. Certaines ont évolué positivement, d'autres se sont arrêtées.
Tout à fait, on parle d'une année clé dans le domaine de la photographie des couleurs. 1891, décembre 1891, puisque Gabriel Lippmann, celui dont on vient de parler, qui obtiendra le prix Nobel en 1908, vient de publier l'article qui va fonder la méthode qu'on appelle interférentielle, qui est une méthode directe pour prendre les couleurs en photographie. Donc il ne s'agit pas du procédé concurrent, la photographie dite indirecte des couleurs, qui est devenue majoritaire maintenant. Maintenant, quand on veut reproduire des couleurs, on utilise trois filtres, le RVB, le rouge, le vert et le bleu, et on essaye, K1, de reconstituer une image colorée à partir de ces filtres. Or, ce n'est pas le problème de M. Lippmann. Il dit non, il ne faut pas faire comme ça. La lumière, elle existe, ce sont des ondes, et moi, je me fais fort de vous démontrer qu'on peut les mettre en prison. Et donc, quand on regarde une plaque interférentielle de nos jours, on a la lumière du jour où cette photo a été prise. Par exemple, le 4 décembre 1904, ce qu'on voit maintenant, c'est la même lumière que le 4 décembre 1904 lors de la prise de vue. C'est extraordinaire. On ne peut pas parler de reproduction dans ce cas-là. On prend une image unique, qui est celle du moment où on prend en photographie. Le procédé est assez simple, on peut l'expliquer en quelques mots, mais juste avant, un petit bond en arrière pour voir que c'est l'époque, la fin du 19e siècle, la lumière sur le plan scientifique et les couleurs en particulier, il y a une révolution scientifique autour de cette notion. On commence à considérer sérieusement l'hypothèse que la lumière, ce sont des ondes électromagnétiques qui se situe dans un champ bien précis de la totalité des ondes existantes, c'est celles qui sont captées par l'œil humain, tout simplement. Ouais.
Nous sommes toujours à l'espace culture sur le campus de la Cité scientifique de Lille, au cœur de l'exposition « Les plaques précieuses » d'Auguste Ponceau, la photographie interférentielle Lippmann Plates, avec Sophie Braun, chargée du patrimoine scientifique à l'Université de Lille. Donc ici, nous sommes dans une université où il y a un espace scientifique important. Comment l'université a pu avoir accès et préserver peut-être certains de ces matériaux, ces matériels ?
Alors, les plaques précieuses, en l'occurrence, ont été conservées grâce à l'Association de solidarité des anciens personnels, qui conserve une belle collection d'instruments de mesure et d'observation. Et donc là, on sait qu'ils viennent de l'ancien Institut de physique, ce qui a été attesté par la découverte d'Auguste Ponceau, qui était professeur à l'Institut de physique de Lille. Et c'est là qu'il a préparé ses plaques. C'est pas forcément là qu'il a pris ses photos, parce qu'on a aussi identifié son village natal, à Dampierre-sur-Salon, en Haute-Saône. Et donc, à partir de ce fond, il y a eu une émulation. On a contacté des historiens de la photographie, des scientifiques, des physiciens, et les yeux d'Argos aussi, pour mettre en scène et expliquer le procédé, expliquer la photographie argentique, la photographie des couleurs mise au point par Lippmann, et aussi montrer après par des autochromes, malheureusement, que l'autochrome a détrôné, a pris la place, on va dire, sur le marché. Là, c'est Bernard, le spécialiste du point de vue économique. Et on montre à la fin aussi une série d'hologrammes, puisque finalement, les travaux de Lippmann vont resservir dans les années 1950 et vont être à la base aussi de l'holographie, les hologrammes de réflexion notamment.
Donc Bernard Dupont, si je comprends bien dans ce que Sophie Braun a dit, c'est que même quelque chose qui est dans une voie entre guillemets de garage peut à un moment donné être réinterprété, renouvelé, réinventé pour un objet particulier.
Tout à fait. C'est à peu près ce qui est arrivé avec la photographie interférentielle qui, de façon un peu surprenante, a été, même dans la tête même du prix Nobel, devait tôt ou tard déboucher sur la notion d'hologramme. Mais un hologramme parfait, où non seulement on voit la forme des choses, et on voit en plus leurs couleurs, mais aussi on voit leur relief. Donc il y avait les trois conditions qui étaient requises pour refléter parfaitement tout ce qui nous environne. Voilà un petit peu la manière dont ça s'est passé. Le débouché naturel, c'est les hologrammes tels qu'ils sont présentés d'ailleurs dans cette exposition.
Lippmann est décédé en quelle année ?
Alors Lippmann est décédé en 1921. De façon extrêmement curieuse, il n'y a pas de lieu de décès pour Lippmann. Il revenait d'un voyage où il représentait la France au Canada et il est mort en haute mer, c'est-à-dire il est mort nulle part en fait. Et il n'a pas de certificat de décès en fait. C'est en rentrant au port et dans son pays, la France, qu'on a décidé qu'il était décédé.
Visiblement, il y a encore des Lippmanniens. Est-ce qu'il existe encore des Lippmann en potentiel dans nos labos, dans nos universités ou dans le monde artistique ?
Alors, dans le monde artistique, il y en a aussi, je pense ici, dans cette exposition, deux représentants. Un du Portugal, je crois, et l'autre est français. Oui, donc on a cette possibilité de montrer des artistes, mais qui s'emparent, comme on le fait de nos jours, de procédés anciens. On a un petit peu l'impression qu'il y a un petit côté folklorique aussi derrière. Lippmann sert toujours, ses équations sont là, c'est un scientifique, ne l'oublions pas. La théorie qu'il a développée, elle est toujours en creux dans l'histoire des sciences et des technologies, et en particulier de la photographie. Régulièrement, on voit des gens qui reviennent, des laboratoires qui vont travailler en se disant s'il n'était difficilement possible d'industrialiser ce procédé au début du XXe siècle, rien n'interdit de penser que nous ne saurons pas le faire dans l'avenir. Et actuellement, ici, dans l'Université de Lille, on va organiser un workshop consacré aux plaques Alain Lippmann. On va faire un atelier qui va nous permettre de travailler comme le faisaient nos anciens il y a plus de 100 ans, mais aussi on a fait venir des plaques qu'on appelle polymères des États-Unis pour voir un petit peu la manière dont la physique moderne arrive à se réapproprier le principe de Lippmann qui date de 1891.
Alors Sophie Braun, l'Université de Lille est riche de ses conservations d'œuvres, de son patrimoine, etc. Vous le mettez régulièrement en avant depuis quelques années et le présentez au public.
Ah oui, c'est tout l'objet de la mission. D'abord, une grosse partie, c'est l'inventaire et donc la connaissance et la découverte ou redécouverte des collections et ensuite des projets de mise en valeur. Principalement des expositions. Et dans le cadre de celle-ci, on a même été plus loin avec l'édition d'un livre, un livre éponyme, Les plaques précieuses d'Auguste Ponceau. Et là, donc, je tiens à remercier Bernard Dupont, qui a fortement contribué, mais aussi Christophe Chailloux, chargé de mission Art Science, qui s'est vraiment intéressé, pris de passion et qui a permis l'émergence de ce projet. Et Daniel Hannequin, qui explique toute la physique avec des mots peut-être plus simple, ou en tout cas qui rend accessible les notions de Lippmann. Donc c'est un livre qui a été édité par la direction culture aux presses universitaires du Septentrion et qui complète fortement l'exposition. Pour tous ceux qui veulent aller plus loin et tout comprendre et même découvrir tout ce qu'on a découvert sur Auguste Ponceau. Alors Auguste Ponceau, la chose qui maintenant nous manque, en tout cas qu'on aimerait prouver, c'est que c'est lui sur nos rares photographies, mais on n'a pas toujours son portrait de l'époque. Et on ne sait pas si on le retrouvera un jour. Il est décédé en 1907 très brutalement et on n'a pas de photos à ce jour pour attester que ce serait lui sur nos photos.
J'aurais voulu dire encore quelques mots sur Auguste Ponceau parce qu'il dit aussi des choses sur notre temps, sur notre époque. Et à travers lui, on peut découvrir une manière dont a pu fonctionner l'université il y a plus de 100 ans. Auguste Ponceau, c'est un petit enfant qui vit dans une ferme où les parents ne sont pas des propriétaires. Il vient d'un milieu extrêmement modeste, pour ne pas dire pauvre. Il fera tout pour quitter ce statut-là et les parents l'aideront. Il est instituteur à 16 ans. 16 ans et demi exactement, pour commencer cette belle carrière qui va l'amener, en plus d'être instituteur, faire des études, réussir à devenir professeur de collège, puis professeur de lycée. Il passe des villes moyennes vers les grandes villes, une expatriation de prestige. Il va à Alger, au fameux lycée d'Alger. Il revient en France et c'est la montée vers Paris. Et il va terminer bourré de diplômes littéralement. Il fera sa thèse avec un futur prix Nobel au grand laboratoire de physique de la Sorbonne. Il trouvera une personne avec qui il aurait voulu se marier, Marie Filon, qui faisait partie d'une des plus grandes familles intellectuelles de Paris, une des premières agrégées de mathématiques en France aussi. Et la veille de son mariage, il prend le train, il part de Lille par exemple, il doit aller se marier et il est mort. Parce qu'il a fait trop d'expériences, il a côtoyé d'un peu trop près des substances chimiques qui font qu'il va mourir prématurément. On l'a retrouvé mort dans un train, à Argenton.
Voilà, la vie est complexe parfois et a des chemins imprévisibles.
Mais c'était une belle période où un enfant du peuple pouvait arriver à de tels niveaux. On ne sait même pas ce qu'il aurait pu devenir. Une autre chose qui est frappant et qu'on voit dans cette exposition, c'est qu'il a été accueilli à bras ouverts par les Lillois. Il avait des collègues, il y avait toute une dynamique autour de lui qui faisait qu'il se sentait bien. Il a pu continuer des recherches qu'il n'aurait probablement pas pu mener. À Paris, il y avait une concurrence extraordinaire entre des gens brillants. Rien que dans le laboratoire, il était. Il est rentré dans le laboratoire avec Marie Curie. Il y a 4 prix Nobel autour de lui. Bon. Il est venu faire son trou à Lille, il y est décédé. C'est très dommage. Voilà.
On a retracé grâce à son dossier du personnel un peu son parcours. Il a d'abord été Voilà, il a voyagé jusqu'à monter vers Paris et c'est à Paris qu'il s'est rapproché des universités. Et il est entré dans le laboratoire de Lippmann pour une thèse, mais pas sur la photo interférentielle. Et on l'a découvert à Lille en 1904 dans les annales de l'université. Et là, surprise, c'est lui qui s'intéresse au procédé de Lippmann et on se rend compte voilà, qu'il y a un lien. On suppose même que c'est peut-être Lippmann qui a insisté pour qu'il arrive à Lille, où il y a voilà, un bel institut de physique et une société de photographie très active qui s'intéresse au procédé. À l'époque, voilà, il voulait améliorer le procédé, il voulait que la société puisse s'en emparer, mais finalement c'est resté trop complexe. Et l'arrivée d'un procédé plus simple à mettre en œuvre avec les frères Lumière a mis fin à ce projet, on va dire.
Voilà, donc l'exposition est ici à l'espace culture de l'Université de Lille, Métro Cité Scientifique. Jusque quand ?
Alors, c'est jusqu'au 12 mai. Sur les horaires d'ouverture, l'université, exceptionnellement de 14h à 17h, les premiers samedis de chaque mois.
Merci à Sophie Braun et à Bernard Dupont pour cette présentation d'une exposition d'une grande originalité à découvrir jusqu'au 12 mai 2023 en visite libre ou visite guidée sur réservation au 03 62 26 80 67. 03 62 26 80 67. C'était un sujet de René Lavergne de Radio Campus Lille.